L'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Alter Nantes, 98.1 FM à Nantes, 91 à Trignac-Saint-Nazaire. Ce soir, vous êtes avec Pulsan, c'est l'émission radiophonique de la Société d'Astronomie de Nantes, qui va vous parler de plusieurs choses. Ce soir, encore une émission assez variée. Nous allons vous parler un peu de la Lune, et surtout la distance Terre-Lune, qui est mesurée grâce au tir laser, et puis toutes les applications qui sont faites, donc ça sera Stéphane Lenet qui apportera ce point. Ensuite, nous allons parler aussi un peu des grossissements des instruments, vous en entendrez tous parler. Vous les voyez tous dans les revues, on vous parle un peu grossit 400 fois, etc., les oculaires. Donc c'est Frédéric Guinel qui va vous essayer de vous expliquer, moi qui va vous expliquer. Ensuite, Daniel Horling va vous présenter la prochaine conférence Laurent Nautal, la conférence qui se déroulera le vendredi 16 mars à la salle Le Bretagne à Nantes, donc une conférence organisée par la SAN et qui va vous parler de morphogénèse gravitationnelle. Alors attention, c'est un mot bien compliqué, c'est la relativité d'échelle, etc. C'est encore une théorie encore au-dessus de la relativité d'Albert Einstein.
De Poincaré, voilà. T'allais dire.
Voilà. J'allais dire de Poincaré, de Albert Einstein. Et pour finir, nous allons vous parler de la station Mir, qui est toujours au-dessus de nos têtes. Jusqu'à quand, justement, on vous donnera quelques infos et on vous parlera un peu sur toute son histoire, puisqu'on considère que la station Mir va bientôt rentrer dans l'histoire. Pour l'instant, elle est encore dans le présent. On ne sait pas trop encore pour combien de temps. Ça sera Fabrice Dubreuil qui vous parlera de ça. Autrement, comme d'habitude, vous pouvez gagner des places pour la prochaine conférence, donc celle du vendredi 16 mars. C'est la conférence de Laurent Nautal, dont on vous parlera tout à l'heure un peu avant 22h. Alors pour cela, c'est très simple, il suffit de nous appeler au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et répondre à la question qui a fondé la théorie de la gravitation universelle. Qui a fondé la théorie de la gravitation universelle ? On vous aidera au fur et à mesure de l'émission, hein, pour ceux qui seraient très durs. Donc vous nous appelez, vous gagnez une place pour la conférence qui se déroulera le vendredi 16 mars à la salle de Bretagne. Hein, vous aurez tous les renseignements par téléphone ou alors... par courrier. Tout de suite, nous allons aborder le début de l'émission. Nous allons parler un peu des dernières nouvelles, entre guillemets, astronomiques au sens large et nantaises, des dernières choses qui sortent. Et on va commencer peut-être même par une nouvelle qui est encore plus nouvelle, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'Alter Nantes, qui a une fréquence à Nantes, qui est 98.fm, ce qui était une nouvelle assez vieille. Hein.
Une fréquence assez remarquable.
Alors, vas-y, Daniel.
Et voilà, nous vous devons une mise au point, puisque je n'ai cessé, d'ailleurs, aux grandes dames de mes partenaires, de vous parler de 98.1, c'est magnifique, c'est 10 fois la constante de gravitation. Encore, c'est ce que je disais jusqu'à aujourd'hui, car maintenant, je m'empresse de rectifier, effectivement, s'il ne s'agit pas de la constante de gravitation qui a une toute autre valeur, c'est tout simplement l'accélération de la pesanteur à 9.81 ou 9,81 selon qu'on est en Amérique ou en France. Et qu'est-ce que c'est que ce 9,81? C'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. C'est tout simplement la proportionnalité entre le poids et la masse. C'est-à-dire, en fait, c'est quand on fait le rapport entre la force avec laquelle la Terre attire un corps d'une masse donnée, c'est-à-dire d'une certaine quantité de matière, eh bien on s'aperçoit que cette masse prend une accélération qui est proportionnelle à la force appliquée.
Hein. Donc la fréquence d'alternante ne change pas. Le seul changement, c'est que, je ne sais pas si vous savez, la fréquence alternante a été établie selon cette constante, on va dire.
Voilà, c'est la constante. Alors, on peut dire autrement, pour que ce soit un peu plus clair, tout simplement le poids d'un corps, c'est-à-dire la force avec laquelle la Terre l'attire, est directement proportionnelle à la quantité de matière. Mais ça, on le savait, mais enfin, il faut encore le dire, et là, j'ai la formule sous les yeux, mais je ne vous la livrerai pas, c'est un secret. Donc, 98.1, du moins à Nantes, puisque 91 à Saint-Nazaire. Enfin, on va vous trouver, vous aussi, une bonne fréquence physique pour que tout le monde soit satisfait alternante.
Oui, en fait, la preuve, c'est qu'on peut toujours trouver des explications à n'importe quoi. Donc, en fait, vous savez bien que n'importe quel andouille peut trouver la différence de distance entre deux pierres à Carnac et puis vous prédire par-delà que les anciens savaient la distance en multipliant par un facteur x ou y.
Donc, on a fait l'inverse. On a pris on établit des relations a posteriori. Ça, c'est profondément anti-scientifique, hein. Mais ça serait trop long à expliquer.
Donc, on va essayer de vous établir la même chose pour la fréquence à Saint-Nazaire à 91.
Voilà. On va vous trouver quelque chose.
Donc, on va chercher quelque chose d'astronomique, on va trouver.
Voilà, bon, ça, c'était une entrée en matière. Maintenant, je vais vous parler de choses peut-être un peu plus sérieuses, puisqu'il s'agit de l'exposition de météorites au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est en ce moment même, puisqu'elle a commencé le 31 janvier jusqu'en septembre 2001 de cette année.
C'est une grande exposition.
C'est une belle exposition.
C'est l'exposition de l'année.
C'est une très belle exposition où vous pouvez redécouvrir ces météorites. Qu'est-ce que c'est que les météorites? Tout le monde sait que ce sont ces pierres qui tombent du ciel. Alors, c'est souvent des pierres, hein, ce sont des messagers de l'espace, on pourrait dire. Alors, selon que elles sont d'origine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été recuites sur des planètes ou sur des satellites, elles nous trahissent en quelque sorte la composition du système solaire primitif. Enfin, ça, c'est assez précieux pour les chercheurs. Sinon, ça peut être des morceaux de planètes ou de morceaux de Lune ou de Mars, par exemple. Alors, elles portent des noms très bizarres selon que c'est l'un ou l'autre. Ça s'appelle chondrite ou achondrite. Enfin bref, on ne va pas se lancer. Vous allez pouvoir justement vous cultiver en allant au muséum. Alors, il y a aussi des impactites, c'est-à-dire des rochers qui ont été fracassés au moment des impacts et qui ont été transformés justement par cet impact. Hein, tout le monde connaît, les géologues connaissent le métamorphisme d'impact, c'est-à-dire quand une roche est recuite par un impact. Donc, voilà des choses assez exceptionnelles. Et autour de cette exposition, se déroulent des animations.
Donc, la première chose, pour bien résumer, il y a une exposition permanente au muséum
sur
les météorites depuis début janvier.
Depuis fin janvier.
Fin janvier, donc qui est en cours actuellement jusqu'à septembre.
Jusqu'à début septembre.
C'est début septembre.
Donc, on peut dire jusqu'à fin août. Hein.
Ensuite,
il y a donc
en parallèle,
il y a des manifestations, donc des stages pour les enfants. Alors ça se déroule pas tous les jours. Le programme est assez copieux et compliqué. Hein.
C'est un peu difficile.
Des mardis, des mercredis, des jeudis pendant les vacances et d'autres jours. Mais enfin, sachez qu'il y a des stages pour les enfants où ils peuvent s'inscrire. Vous pouvez partir à la découverte notamment de la Terre avec le Planétarium de Nantes et la Société d'Astronomie, puisque nos animateurs sont impliqués dans ces stages. Il y a des visites commentées. Il y a des films le premier dimanche de chaque mois. Vous avez à 16h le dimanche, vous pouvez assister gratuitement à des films sur les météorites. Il y a un cycle de conférences qui se déroulera en avril, le 25 au 28, avec des conférenciers très intéressants. Donc, on y verra notamment Michel Morette, qui est un grand spécialiste que nous voulions faire venir dans le cadre de notre cycle, nous, mais comme il venait, donc on l'a. Alors, il y a aussi, bien entendu, nous sommes impliqués dans cette manifestation aussi pour l'observation du ciel et notamment de la Lune. On va découvrir la Lune avec nos amis du Planétarium de Nantes. Et je crois Frédéric, qui est là, qui est aussi, en dehors d'être éminent membre de la Société d'Astronomie, il est animateur au Planétarium. Tu vas nous donner quelques précisions sur ces observations.
Oui, bonsoir. Donc, il sera possible d'observer la Lune. Pour les planètes, ce sera un petit peu tard, mais l'expo est sur l'impactisme et les météorites, donc c'est surtout la Lune qui sera intéressante. Il y aura une observation le 3 avril, le mardi 3 avril, une observation le samedi 5 mai, une observation le samedi 2 juin et une observation le samedi 28 juillet.
Alors pour les gens qui se demanderaient pourquoi il y a des observations, pourquoi il n'y en a pas tout le temps, hein, c'est tout simplement parce que la Lune, il faut qu'elle soit là en début de soirée, sinon...
Il a d'ailleurs été assez difficile de trouver des périodes où la Lune était suffisamment haute, car au printemps, les lunes en début de lunaison sont généralement basses.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas observer à partir du square qui se trouve derrière le muséum, et qu'il a fallu s'expatrier, si je puis dire.
Voilà, donc dans les observations feront derrière le planétarium, dans le square...
Sur la butte Sainte-Anne.
Dans le square Moisan, qui est juste derrière le planétarium.
Pour ceux qui veulent plus de renseignements, vous n'hésitez pas à écrire à la Société d'Astronomie de Nantes ou au planétarium.
Au planétarium.
Ou au muséum, je pense qu'il doit
Ou bien vous allez tout... vous allez, enfin pour les observations, oui, c'est la Société Astronomique du Planétarium. Sinon, vous allez au muséum. Il y a plein de documents qui sont à votre disposition pour vous donner des précisions.
Notamment les animations, etc.
Voilà, tout ce qu'il y a. Tous les détails, bien sûr, qu'il serait trop long de les exposer ici. Alors, la dernière nouvelle, si je puis dire, qui est une nouvelle en fait qui date de samedi, où nous avons exhumé à travers les coupures de presse, parce que nous sommes en train, cette année, pour nos 30 ans, justement, d'exhumer tout un tas d'archives sur l'histoire de la Société d'Astronomie. Donc samedi,
on parle bien les 30 ans de la SAN, non pas des 30 ans. Hein,
merci, mon cher Pierre, mais je les aurais pas. Dans quelques années,
oui,
j'aurai 30 ans.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Donc en fait, j'ai découvert, enfin, ce que nous aurions pu découvrir avant, mais enfin, nous avons beaucoup de documents. En compulsant les coupures de presse, je vous livre quelques dates. Alors, la Société d'Astronomie, c'est très intéressant. Elle est née un petit peu sous la pression d'un journal, on peut le citer, hein, il s'agit de Presse Océan, qui avait une rubrique assez régulière d'astronomie. Donc, et Presse Océan et les journaux sont encore friands de science, mais je crois que l'actualité prend toujours de plus en plus le dessus, alors que je m'aperçois qu'autrefois, on laissait une bonne place à la science et à la science d'amateur. Je le regrette que ce soit plus comme ça, mais on va peut-être pousser pour que ça revienne comme c'était.
Oui, il suffirait de leur donner des articles.
Hein. Et oui, alors il y avait des articles. Donc, et à l'occasion d'un article, le journaliste écrivait... beaucoup de nos lecteurs nous demandent régulièrement s'il y a une société à Nantes et on leur répond c'est bien dommage, eh bien non, il n'y en a pas, mais si certains de nos lecteurs étaient intéressés par la création d'une société d'astronomie, n'hésitez pas. Alors quelques semaines après, un autre article, notre appel a été entendu, beaucoup de nos lecteurs veulent créer une société, donc rendez-vous le 26 mai au Muséum d'Histoire Naturelle pour une soirée d'information. C'est comme ça que la SAN est née en 1971, que le 26 mai. Et le 14 juin, il y a eu l'approbation des statuts qui ont été calqués sur ceux de la Société Astronomique de France. Et première assemblée générale le 4 octobre de la même année, 71, avec Monsieur Desperreaux qui était un des fondateurs avec Michel Legrand et puis notre ami président d'honneur Monsieur Lassor qui était déjà dans ce premier bureau de la Société d'Astronomie qui commença très fort avec une cinquantaine d'adhérents. Tout de suite, ils ont été à la recherche d'un terrain, de l'observation, etc. Alors, on a hérité de ce passé vraiment très dynamique, sans compter, je vous raconterai ça une autre fois, la naissance en 1884 pour être précis, 3 ans avant la Société Astronomique de France. Donc on continuera à vous raconter un petit peu les dernières nouvelles de l'archéologie de la SAN.
L'archéologie, ouais. Voilà. 30 ans, ça va, l'archéologie. Oui. On va de l'histoire.
Nous ne sommes pas encore des fossiles.
Oh bien. Pour les fossiles, il faut les voir au muséum, il y en a plein. En plus des météorites.
En dehors de nous.
Oui. En dehors de nous. Je vous rappelle simplement la question pour vous faire gagner des places à la conférence de Laurent Nautal, c'est cela, qui a fondé la théorie de la gravitation universelle. Il suffit de... Pour trouver la nationalité du père de la fondation, de la gravitation universelle, il suffit d'écouter un peu la radio, il y en a plein, beaucoup. Ils en parlent de ce pays où il y a plein de moutons qui se cassent la gueule tout seul.
Ah non, si tu souffles, ça va pas.
On va les aider un peu.
Ouais, c'est tellement facile.
C'est tellement facile. Donc vous
on va vous aider. On va vous aider. La personne en question était alchimiste et a découvert le spectre.
Ouais, le spectre, pas les fantômes. Quoique, c'est pour ça que ça
c'est pour ça qu'il a appelé ça spectrum, d'ailleurs.
Donc cette personne-là, vous nous donnez son nom au 02 40 93 26 62. Voilà, il est un temps portable, Daniel. Au 02 40 93 26 62. Pour ceux qui voulaient téléphoner à Daniel, c'est loupé, il vient d'éteindre son téléphone, parce que c'est pour éviter qu'on l'entende à l'antenne.
Moi qui voulais être discret.
Discret. Moi, je sais pas si on l'a entendu en antenne. Et donc, autrement, vous nous appelez au, je sais plus ce que je disais, 02 40 93 26 62, vous répondez à la question qui a fondé la théorie de la gravitation universelle, et vous gagnez des places pour la conférence de Laurent Nautal. Tout de suite, nous allons aborder le premier thème de cette émission, nous allons vous parler un peu de la Lune, du laser et du tir laser sur la Lune. Alors Stéphane Lenet va nous parler justement du tir laser sur la Lune. Alors Stéphane, fais-nous un peu miroiter sur qu'il y a des gens qui tirent au laser sur la Lune.
Miroiter.
Oui, miroiter, parce qu'il y a des miroirs sur la Lune.
Tout à fait, non mais...
J'essaie de faire des jeux de mots.
Mais non, on les avait bien compris, c'est bien pour ça qu'on a relevé.
C'est bien.
Bonsoir. Alors, tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous la distance Terre-Lune ?
400 000 à peu près.
384 401 km.
Pardon, voilà.
384 401 km en distance
moyenne. C'est la distance moyenne.
Ça. Moyenne, oui. Bah, ça varie. Hein.
Vous avez tous. Mais c'est pas la moyenne pondérée par la vitesse sur l'orbite.
Non.
C'est la moyenne tout point. Alors on peut.
Vous avez tous raison, parce que la distance Terre-Lune n'est pas constante, elle évolue au cours du mois, et même d'un mois à l'autre, sa distance varie. Et elle vaut en moyenne 384 402 km.
402. Voilà. C'est précis. Alors comment on fait? Quelqu'un était
comment, comment on peut être aussi précis que ça? Voilà. Parce qu'on connaissait on pouvait avoir la méthode. Enfin, je ne sais même plus quelle méthode on avait utilisée pour les premières distances Terre-Lune.
Les observations angulaires, en mesurant la hauteur angulaire de la Lune dans le ciel. En se plaçant en deux points d'un méridien, comme l'ont fait Lalande et Lacaille au XVIIIe siècle.
Mm-hmm. Ah oui, ça va.
Ou comme les Grecs le faisaient en observant des éclipses de lune.
Mais bon, on n'arrive pas à 402 km quand même de précision.
Non, voilà. Mais on avait tout de même une bonne précision au XVIIIe siècle. Et cette précision s'est accrue en 1946 lorsque des astronomes ont utilisé un radar qu'ils ont envoyé vers la Lune. Le principe de la mesure est simple. Donc on envoie une impulsion de radar qui se réfléchit sur la Lune. En mesurant la durée du trajet aller-retour et en connaissant la vitesse de propagation des ondes, on est déduit facilement la distance.
C'est ce que font les policiers pour nous toper au radar. C'est exactement pareil.
Ils n'utilisent pas l'effet Doppler, c'est avec un laser.
C'est par effet Doppler.
C'est par effet Doppler.
Par effet Doppler.
Effet Doppler, oui.
Et actuellement, depuis les années 70, on fait la même chose, mais avec un laser, ce qui permet d'atteindre une précision assez impressionnante. Alors, depuis 1969, trois missions Apollo et une mission Lunokhod russe ont déposé chacune un réflecteur sur la Lune, sur la face visible de la Lune.
La face cachée, on aurait toujours pu vouloir la viser au laser, ça n'a pas marché.
Alors, ces réflecteurs sont des sortes de miroirs qui font un mètre carré, qui sont composés d'une centaine de petits miroirs. Et le principe de la mesure est très simple. On utilise un laser très puissant pour tirer en direction de la Lune, en direction d'un réflecteur plus précisément. Ce réflecteur donc renvoie une partie de la lumière et on date tout simplement le moment du départ et le moment de la réception de la lumière. Et on en déduit la distance Terre-Lune avec une précision excellente, puisqu'on atteint 2 à 3 cm de précision sur une distance de 384 400 km.
C'est-à-dire qu'on est capable, grâce au tir du laser, en mesurant le moment où le rayon part, il va sur la Lune, il est réfléchi, hop, on prend la distance entre les deux, on sait que la lumière va en gros à 300 000 km à la seconde, hop, on sait qu'elle va être à peu près un peu plus d'une seconde à venir, ici on a un très bon chronomètre, et on arrive à avoir une précision de l'ordre du centimètre.
Très bon chronomètre.
Très bon chronomètre, ouais.
On utilise une horloge atomique pour ça.
Oui, ça peut mieux parce que...
Il n'y avait pas un tir laser pour la Lune au pic du Midi, mon cher Frédéric?
Il y en a eu un. Les premières expériences de mesure laser-Lune ont été faites à l'observatoire du pic du Midi, mais ça n'a quasiment jamais fonctionné. Pour
faut quand même viser
différentes
un truc de 1 mètre.
Raisons, météo, l'instrument était extrêmement long, je crois, à mettre en service, et il a été démoli il y a 3 ou 4 ans, à la suite des travaux à l'observatoire. Voilà, oui. C'était une pièce monstrueuse, historique, de l'observatoire qui a été démolie. Bien content d'abord, d'ailleurs, parce que quand le vent se prenait dedans, ça faisait un bruit épouvantable, et le pic a gagné en tranquillité.
Pour les nuits d'observation.
Actuellement, ces mesures se font en deux endroits. Depuis 1981, à l'observatoire de la Côte d'Azur, près de Grasse, donc dans les Alpes-Maritimes, et à l'observatoire de McDonald's au Texas.
Ah oui, c'est pas là où on vend des petits pains avec de la viande dedans.
Non, c'est... Donc, on arrive à mesurer la distance Terre-Lune à quelques centimètres près, ce qui revient à mesurer un mètre avec une précision de un 10 millionième de millimètre. C'est comme...
C'est comme si on voulait savoir la valeur d'un mètre, c'est ça, on aurait la valeur à un 10 millionième près, c'est ça?
Voilà.
Impressionnant.
C'est peu de disciplines scientifiques qui arrivent à une telle précision. Et donc le principe de la mesure est très simple, mais les astronomes font face à de nombreuses difficultés. Et je vais plutôt m'intéresser aux applications de cette mesure à la distance Terre-Lune.
Parce qu'il y a des applications. La première application, c'est bien connaître la distance.
Mais il faut savoir que les astronomes font les mesures tant qu'ils le peuvent, tous les jours, si le temps le permet. C'est vrai qu'à Grasse, ils sont un peu plus gâtés que nous. Mais dès qu'ils le peuvent, ils sortent leur instrument la nuit. Et ce n'est pas dans le seul but de connaître la distance Terre-Lune. C'est pour de nombreuses applications dont je vais vous détailler quelques-unes. Mm-hmm. Mais tout d'abord, je dois parler d'une variante de cette méthode. Donc, je vous ai parlé du principe de la télémétrie laser-lune, mais il existe aussi la télémétrie laser-satellite. On tire avec un laser, cette fois moins puissant, en direction de satellites, équipé de réflecteurs.
Mm-hmm. J'ai cru que c'était pour les descendre.
Non, c'est pas encore la guerre des étoiles.
C'est pacifique.
Deux stations tirent vers la Lune, mais environ une trentaine de stations tirent en direction de satellites. Alors, les satellites sont Starlet, Lajos, Topex Poséidon,
IRS-1 et 2. Pour la flotte, c'est ça ? Qui sert pour la mesure de la surface de l'eau.
Les océans, oui, c'est
pour
ça.
La flotte.
Mais pour connaître l'altitude de Topex, on utilise la télémétrie laser vers ce satellite. Donc on connaît précisément la distance entre la station d'observation et le satellite à un moment donné. Ce qui permet ensuite de
recaler les mesures que le satellite fait par rapport à la surface des océans qui varie, ou la surface du géoïde en fait. Donc si lui prend des mesures, il faut savoir quelle hauteur il est, mais très exactement. Donc c'est pour ça.
Voilà, c'est donc une application de la télémétrie laser. Une autre est la mesure de la durée du jour et de l'éloignement de la Lune. Donc, on sait que depuis plusieurs millénaires, la durée de la journée augmente de 1 à 2 millisecondes par siècle.
Oui.
Alors, pourquoi augmente-t-elle ? La réponse se trouve dans le phénomène des marées. Vous savez que la mer monte et descend deux fois par jour, donc le long du littoral, mais également la terre monte et descend de 30 à 40 cm par jour.
Ouais, on ne le sent pas, ça.
Non. Les mouvements des masses océaniques créent des frottements sur les fonds des océans et de l'énergie se dissipe. Cette énergie est prélevée à la rotation de la Terre, ce qui fait que la Terre tourne sur elle-même de moins en moins vite.
C'est-à-dire en fait que ça peut paraître paradoxal, mais quand les océans tournent, vu qu'ils frottent sur la Terre, ça la fait ralentir. C'est un peu ça.
Voilà, oui.
C'est un peu schématique, mais...
Alors, comme la Terre tourne sur elle-même de moins en moins vite, une journée dure de plus en plus longtemps.
C'est les patrons qui vont être contents.
Oui, mais la différence est vraiment faible.
Ouais, c'est 2 millisecondes par siècle, c'est ça ?
Oui.
Ouais, donc il y a le temps encore. Pour ceux qui sont 35 heures, c'est bon.
Augmentation de la durée du travail, 2 millisecondes par siècle. Tu vas voir les manifestations.
demain, rendez-nous nos 2 millisecondes.
Mais ça compte, parce qu'il y a 400 millions d'années, une journée durait environ 22 heures.
Ah oui.
Mais comme on a constaté qu'une année, elle même durait le même nombre d'heures qu'actuellement, ce qui fait qu'une année durait environ 400 jours. Ah bah 400 oui. Journées de 22 heures.
Oui, parce que l'année, la révolution du Soleil, de la Terre autour du Soleil, était la même.
Tout à fait.
Ouais. Voilà. Mais comment sait-on ceci ? C'est grâce à la paléontologie. Plusieurs sciences arrivent à se recouper. On sait que certains coraux croissent tous les jours en apportant une couche
sédimentaire.
Les corbeaux aussi, non, je vais rien.
Croissent.
Et
continue
à faire la terre.
Et en fonction de
la durée
du jour,
la journée, et donc varie au cours de la journée et au cours de l'année également. Et on a retrouvé des coraux fossiles et on a pu mesurer des écarts sur la durée du jour au cours des siècles. Et donc plus récemment, jusqu'aux années 70, les mesures se faisaient grâce à la position des étoiles. Lorsqu'une étoile passe au méridien d'un lieu, on
déclenche un chronomètre et puis on regarde quand est-ce qu'elle repasse exactement au même endroit. Et logiquement, voilà. On a la durée du jour, la rotation plutôt.
Par différence.
Et ça a permis de confirmer que la durée du jour augmente. Maintenant, on fait la même chose avec la Lune.
Ah, vas-y, explique-nous, parce que moi je vois pas trop pourquoi, comment, mais...
C'est-à-dire que lorsque la distance Terre-Lune est minimale, on peut considérer que la Lune est au méridien. Bien sûr, en faisant plusieurs mesures des journées différentes. Mm-hmm. Et donc on arrive à déterminer la durée d'une journée entre deux passages de la Lune au méridien.
Et puis vu qu'on sait exactement à quel endroit elle est, on a une précision plus importante, c'est ça?
Tout à fait. Et ainsi, on observe donc des oscillations périodiques, mais aussi de certaines oscillations irrégulières de la durée du jour. Et on constate que globalement, cette durée du jour augmente.
Donc alors, la Lune, le tir laser, ça nous permet de savoir la distance Terre-Lune avec une grande précision. Vu qu'on sait la distance Terre-Lune, on a une très grande précision, on sait quand la Lune se rapproche et passe au méridien exactement. Donc en fait, on sait la durée de la rotation de la Terre, c'est ça?
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres applications en plus de celle-là?
Oui, notamment une qui découle
de tout ça. De
ceci. La Terre tourne sur elle-même de moins en moins vite, mais par un phénomène physique, on peut dire que la Lune compense ce ralentissement en s'éloignant de la Terre. C'est lié par une formule
bien compliquée
en cours de physique. Pas suffisamment compliqué, mais je ne vais pas aborder.
Difficile.
Voilà.
Qui serait trop long à exposer. Voilà.
Et donc, la Lune s'éloigne de la Terre. Et on estime qu'elle était. Qu'elle était beaucoup plus proche par le passé. Donc, il y a 4 milliards d'années, elle devait être à 230 000 km au lieu de 380 000 actuellement.
C'est pas rien.
Et ainsi, grâce à la télémétrie laser-lune, on arrive à déterminer que la Lune s'éloigne de 3,7 cm par an de la Terre.
C'est 3 cm par an. Donc oui, les infos que nous a données là, 4202 avec des brouettes, avec les centimètres, il faut rajouter 3,7 cm pour l'année prochaine, c'est ça?
Voilà. Donc ça coûtera de plus en plus cher d'aller vers la Lune.
Et puis il faudra refaire l'émission à chaque fois alors.
Tous les ans, je vais refaire l'émission pour donner la valeur. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière application ou une petite dernière?
Il y en a de nombreuses autres que je vais énoncer rapidement.
Vas-y.
D'abord, certaines sont bien compliquées, je ne saurais pas.
On saura pas ça, voilà, ça y est.
Il y a environ une trentaine de stations qui tirent vers des satellites, on arrive à. Et qui sont, ces stations sont réparties
sur la surface du globe.
Donc, on arrive à bien connaître les positions relatives de ces stations et à confirmer la théorie de la dérive des continents.
Oui, parce qu'en fait, ouais, d'accord. En fait, c'est par deux phénomènes. C'est-à-dire que vu qu'on tire le satellite, on sait exactement à quel endroit et vu qu'on a l'information d'où est-ce qu'on est en fait.
Tout à fait, oui.
Oui, si je puis me permettre, il y a une chose dans cette expérience-là que je trouve absolument fantastique. C'est quand on tire le laser est très étroit, le faisceau laser est très étroit. Mm-hmm. Et quand, à cause de l'atmosphère, il y a une divergence qui se crée. Déjà, en lui-même, le faisceau laser n'est pas complètement parallèle. Quand il arrive au niveau de la Lune, je crois que le faisceau laser fait déjà 2 km de diamètre.
C'est pour ça qu'ils arrivent à toucher un
ensuite,
peu de diamètre.
Voilà, sur cette surface de 2 km, sur ce cercle de 2 km de diamètre, on en prélève 1 mètre carré. Ça revient vers la Terre. De nouveau, il y a une divergence.
Ouais.
Plus du double. Bon, on a au moins sur la Terre un diamètre de plus de 4 km, une tache de lumière laser qui fait au moins 4 km de diamètre.
Quelle boîte de nuit!
Et on en prélève un mètre carré, parce que le télescope qui reçoit la lumière laser fait à peu près un mètre de diamètre. Et je trouve ça fantastique qu'on puisse, dans cette tache de lumière extrêmement diluée, trouver quelques photons laser. Moi, ça me...
C'est impressionnant.
Quand
tu parlais de la divergence, c'est un peu comme votre lampe torche. Hein. Si vous prenez le rayon, est très très, il fait le diamètre de votre lampe torche, et quand vous voyez à loin, il est beaucoup plus large.
Eh oui, c'est de la géométrie.
Et heureusement d'ailleurs
ils arrivent à faire les mesures en plein jour. C'est-à-dire que la lumière du jour n'est pas spécialement gênante.
Ouais. Voilà. Pour conclure, Stéphane.
La télémétrie laser Lune a de nombreuses applications en physique et en astronomie. Elle est promise à un avenir encore assez glorieux. Et c'est une continuité des programmes Apollo, puisque les réflecteurs laser sont les seuls instruments posés dans les années 70 qui fonctionnent toujours sur la Lune.
Ah, c'est les trucs sismiques, etc., mais ils fonctionnent toujours.
Oui, bon, c'est pas très compliqué, c'est pas mécanique, mais enfin bon, au moins ça fonctionne.
Au moins ça arrive de fonctionner.
Mais ça fonctionne pas sous Windows, c'est pour ça.
C'est pour ça. Pour des réflecteurs, c'est un peu logique. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour la conférence de
Laurent
Nautal, hein, du vendredi 16 mars. Il fait de nous appeler qui a au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, de répondre à la question qui a fondé la théorie de la gravitation universelle. Stéphane Lenné vient de vous parler un peu du tir laser sur la Lune. On a parlé un peu du tir laser sur les satellites. On va vous parler du tir laser au sens large avec un peu de musique.
Qu'eux, ils en étaient encore à l'épée.
Voilà, hein. L'épée laser, hein. Ils ne pourront pas tout faire. Donc,
le sabre laser.
Le sabre laser, en plus, pour être plus précis, pour les connaisseurs. Donc, vous êtes toujours sur Alternante, avec Pulsan.
98.1.
Avec Pulsan, l'émission de la Société de l'Astronomie de Nantes. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour la prochaine conférence du 16 mars, dont on va parler dans une dizaine de minutes. C'est une conférence que va donner Laurent Nautal sur la morphogenèse gravitationnelle. Alors n'ayez pas peur,
c'est très simple.
C'est très simple.
On va vous expliquer.
On va vous expliquer tout à l'heure. Donc pour cela, vous nous appelez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et vous répondez à la question qui a fondé la théorie de la gravitation universelle. Pour ceux qui, parce qu'on a eu apparemment des appels de gens qui ont donné la mauvaise réponse, donc on a dit que c'était un anglais, on les a déjà bien aidés. Hein.
Qui a des anglaises, qui est coiffé avec des anglaises.
Qui est coiffé avec des anglaises.
Et donc, qui a, alors on ne va pas dire quand même la légende, parce que...
Non, on ne va quand même pas parler de la légende avec sa pomme, mais bon, on en parle. Donc voilà, il suffit de donner la réponse.
Il a été utilisé chez Gottlieb.
Voilà, on va donner... donc vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62, vous donnez son nom et vous gagnez des places pour la prochaine conférence.
Il y en a même qui croient qu'il est photographe.
Oui, en plus. Voilà, c'est bien.
Ah oui, oui. Bien.
Je sais pas si on les embrouille pas, en fait, là.
Non, mais c'est très bien, il faut les embrouiller un peu.
Donc, tout de suite, nous allons aborder complètement un autre sujet. Nous allons parler un peu des grossissements des instruments astronomiques.
Astronomiques.
Alors, ça va être Frédéric Guinel qui va nous, en tant que grand spécialiste des grossissements.
De l'optique astronomique.
Des grossissements, j'ai pas dit de quoi. Frédéric Guinel qui nous parle du grossissement.
Je vais aborder un sujet beaucoup plus pacifique que
les tirs laser sur la Lune.
Donc je vais vous parler des grossissements et quels sont les grossissements que l'on peut utiliser sur un instrument.
Un télescope ou une lunette, c'est ça?
Télescope ou lunette. Je vais vous parler aussi des oculaires, comment calculer le pouvoir séparateur d'un instrument. Qu'est-ce que le grossissement résolvant et bien d'autres choses encore. Alors tout d'abord, quel est le grossissement d'un instrument utilisant un oculaire donné? Quand on vient d'acquérir un instrument astronomique, généralement quand on est débutant, on a tendance à vouloir grossir un maximum et on se rend vite compte qu'on est limité. Donc le grossissement d'un instrument se calcule avec une formule très simple. C'est la focale de l'instrument.
Donc ça, vous l'avez dans vos caractéristiques.
De l'objectif,
voilà,
en fait. Hein.
Voilà, focale de l'instrument en millimètres. Donc je rappelle que la distance focale d'un objectif, c'est la distance qu'il y a entre l'objectif et le plan de l'espace où se forme l'image de l'objectif.
En grosso modo, à quelque chose près, oui, c'est
un objet. Ouais,
soit c'est marqué dessus, soit voilà, c'est la hauteur
oculaire. C'est indiqué sur le diamètre, sur le comment, sur le la lunette ou le télescope.
Par exemple, un 115-900 à 900 mm de focale.
Voilà, 900 mm de focale. Donc c'est cette focale, cette longueur focale divisée par la longueur focale de l'oculaire qui est aussi indiquée, je dirais beaucoup plus clairement sur les oculaires, là, ces petits cylindres métalliques avec des petites lentilles qui sont vendues avec les lunettes ou les télescopes.
D'ailleurs,
on a généralement deux ou trois par instrument.
Au contraire des loupes, le grossissement, il n'y a pas de grossissement qui est indiqué sur un oculaire. On indique juste la longueur focale en millimètres. On ne dit pas dix fois autre chose parce que ça dépend de l'objectif,
parfois,
en fait.
On peut parfois confondre ce chiffre avec un grossissement. Non, c'est toujours la focale de l'oculaire qui est indiquée dessus.
En millimètres aussi.
La longueur focale de l'oculaire en millimètres.
Donc un 30, toujours un 4 millimètres.
Oui, enfin, si on exprime tout en centimètres, ça marche aussi, mais comme c'est indiqué en millimètres l'oculaire.
Donc prend la focale. On prend la focale de l'instrument, la focale de l'oculaire.
On divise.
Et on divise. Grossissement égale la focale de l'objectif principal, miroir ou lentille, divisé par la focale de l'oculaire.
Donc on prend un exemple.
Télescope de 100 mm de diamètre, télescope tout à fait classique, 1000 mm de focale, avec un oculaire de 20 mm, grossissement, 1000 divisé par 20 égale 50 fois.
Ouais, mais alors maintenant fais-nous le calcul avec un 900 et un 32. Et donc on prend la focale de l'instrument, on divise par la focale de l'oculaire, et ça donne le grossissement.
Et cela donne le grossissement. Le pouvoir séparateur d'un instrument maintenant. Donc c'est un angle très petit que l'objectif est en fait capable de séparer sur un objet, une planète, sur la Lune.
Ou alors on peut dire que
un télescope est capable de voir des détails de plus en plus fins. Plus l'instrument a un grand diamètre, plus le télescope est capable de séparer des détails fins sur une planète ou la Lune.
Donc plus grand, il a un pouvoir séparateur.
On peut rappeler le pouvoir séparateur de l'œil humain, sans instrument, c'est on peut distinguer un millimètre, enfin deux traits séparés d'un millimètre à 3 mètres, à peu près, en moyenne.
C'est une minute d'arc, je crois, à peu près.
Oui, c'est ça. C'est
de l'ordre d'une minute d'arc.
C'est de l'ordre d'une minute.
Donc on donne, donc c'est calculé généralement en minutes ou secondes d'arc, hein, ce sont des angles. Si la lunette, oui, donc il faut déjà que je donne la formule pour le calculer. Donc le pouvoir séparateur égale 120 divisé par le diamètre de l'instrument exprimé en millimètres. Donc S égale 120 divisé par D
diamètre.
Qui est donc le diamètre de l'instrument exprimé en millimètres. Et cela donne un résultat en secondes d'arc. Encore un exemple, si la lunette fait 60 mm de diamètre. Lunettes d'amateur, tout à fait d'initiation.
Il a raison.
Très répandu. 120 divisé par 60 égale 2. 2 secondes d'arc.
Il faut quand même dire qu'il a des notes sous ses yeux et qu'il nous prend des calculs qu'il pourrait faire de tête. Ça l'a fait plus avant, sinon.
Il a raison. Les lunettes de 60, c'est très répandu. On peut donner un exemple, c'est que la Lune, quand on la voit dans le ciel, elle fait à peu près 30 secondes. Hein, c'est une demi-minute.
Un demi-degré.
Je suis désolé, 30 minutes. Donc, un demi-degré.
Demi-degré.
Donc, en fait, 30 minutes, ça fait quand même pas mal de secondes.
Il n'a pas de notes. Donc,
il n'a pas de notes, c'est pour ça qu'il faut l'excuser.
Voilà. Je suis excusable.
Donc plus l'instrument est grand, plus évidemment son pouvoir séparateur va être faible. Plus l'instrument va être capable de pouvoir séparer de voir des détails fins. Mais c'est vite limité, parce qu'avec la pratique, on s'aperçoit que on est très vite limité par la turbulence atmosphérique. Donc il est rare de pouvoir utiliser un instrument au-delà de, je dirais, 150 mm à 20 cm de diamètre. Il est rare d'utiliser l'instrument à plein de son pouvoir séparateur. Généralement, la turbulence est supérieure à ce moment-là au pouvoir séparateur.
Pour résumer, les astronomes...
On s'en rend vite compte par l'observation.
Le problème des astronomes, c'est qu'il y a l'atmosphère sur la Terre.
Voilà, donc il faudrait à partir de 150 mm à 20 cm de diamètre envoyer son télescope sur orbite.
Sur orbite.
Avec soi-même aussi, hein, parce que ce sera un peu cher.
Voilà.
Le grossissement résolvant maintenant. Donc le grossissement résolvant est le grossissement minimum permettant d'atteindre le pouvoir séparateur de l'instrument. Il y a un grossissement où on ne l'atteint pas, et à partir d'un certain grossissement, on arrivera au pouvoir séparateur de l'instrument.
Donc il faut grossir assez pour voir au moins les détails que l'instrument nous permet de voir.
Voilà. Donc c'est encore plus simple, c'est pour ça que je ne vais pas regarder mes notes. c'est tout simplement le diamètre de l'objectif exprimé en millimètres.
Donc si on a un objectif de
115 fois, on atteindra le pouvoir séparateur.
Théorique sans turbulence.
On atteindra le pouvoir séparateur, qu'il y ait de la turbulence ou pas.
Tu le verras, tu le verras
maintenant,
pas.
Mais après, la pratique montrera, en mettant l'œil à l'oculaire, que s'il y a de la turbulence, on sera obligé d'utiliser, s'il y a beaucoup de turbulence, on sera obligé d'utiliser pour un petit instrument un grossissement inférieur. Mais généralement, pour les gros télescopes, je parle de 40, 50, 60 cm, on s'aperçoit qu'on est généralement, la plupart du temps, on est en dessous de ce grossissement, je dirais, minimum qui permet d'atteindre le pouvoir séparateur. Par contre, c'est pas applicable pour les petits instruments. Pour les petites lunettes de 60 mm et petits télescopes de 100 mm de diamètre, là, on s'aperçoit qu'on peut facilement atteindre 60 fois, 100 fois, et atteindre le pouvoir séparateur. Alors maintenant, le grossissement normal d'une lunette, ça dépend évidemment de la turbulence. C'est généralement une fois et demie à deux fois le grossissement résolvant si les conditions de turbulence sont bonnes.
Sont optimales.
Quelle gamme d'oculaires doit-on utiliser? Doit-on avoir dans sa panoplie d'observateurs? Donc il faut un oculaire donnant un grossissement faible, à champ important, 40 mm, 25 mm de focale. Donc ce sont des oculaires qui grossissent peu. C'est applicable sur des objets, c'est utile sur des objets peu lumineux. Donc ce sont des oculaires qui permettent d'observer des nébuleuses, des amas d'étoiles, des galaxies ou des comètes. Donc c'est tout aussi utile pour observer la Lune en entier ou le Soleil en entier en utilisant bien sûr des filtres, le filtre adéquat. Je rappelle que l'observation du Soleil est extrêmement dangereuse, il faut prendre d'énormes précautions. Utilisez aussi un oculaire moyen avec focale de 10 à 15 mm. Donc c'est souvent celui-là qu'on utilisera. C'est un outil donc tout à fait indispensable pour l'observation planétaire et lunaire par turbulence moyenne à forte, ne permettant pas de fort grossissement. Et enfin, un oculaire fort qui permettra d'obtenir des grossissements forts, donc à focale faible, de 6 à 8 mm, à utiliser que quand les conditions de turbulence sont bonnes, observation planétaire à haute résolution. Donc, généralement, on l'utilise peu souvent, mais il en faut toujours un sous la main dans le cas où la nuit est bonne, où on pourra obtenir des grossissements forts.
Donc en gros, il en faut 3.
Oui,
un grand, une valeur grande parce qu'il grossit peu.
On peut même éventuellement rajouter un quatrième, un grossissement très fort avec des diamètres des longueurs focales de 4 mm pour ceux qui sont intéressés par les étoiles doubles, car ça permet de séparer des étoiles doubles serrées.
Toujours en sachant que
c'est pas indispensable. Et enfin, j'aimerais dire un dernier mot sur les lentilles de Barlow, qui sont généralement toujours vendues avec les télescopes ou les lunettes. Et ce sont en fait, il faut pas les jeter, mais ça sert à rien. Au départ, les lentilles de Barlow étaient des lentilles utilisées pour les photographes. C'est utile quand on fait de la photographie astronomique, ça permet de doubler la focale, c'est un doubleur de focale. Et ça n'a jamais été en fait utilisé avec un oculaire. C'est au départ une lentille photographique. et ça peut être donné comme un argument de vente.
Ça augmente le grossissement,
voilà,
en fait.
Ça double le grossissement, ça peut intéresser des amateurs inexpérimentés qui sont appâtés par des grossissements faramineux que peuvent effectivement apporter les lentilles de Barlow. Mais à cause des raisons que je viens d'exposer, on voit vite que c'est complètement inapplicable.
Donc les amateurs qui n'ont pas écouté Pulsan. Hein.
Voilà, et ça ne sert pas à grand chose.
Donc on ne peut pas l'acheter, mais ça ne sert à rien.
Il faut les garder, mais il faut la mettre de côté en tout en sachant que ça ne servira à rien.
Bah, puis faut...
Cela ne servira à rien dans un premier temps.
Il suffit d'essayer. Hein. Oui. Et voilà. C'est prouvé que ça ne sert à rien.
Donc, voilà. En résumé, en fait, quand quelqu'un va dans un magasin, il regarde le diamètre de l'instrument. Hein, par exemple, ça fait 60 mm. Il se dit, ben voilà, avec ça, je peux espérer grossir 60 fois, à peine plus, mais c'est tout. Hein, je vais pas aller beaucoup voilà, au-delà, ça oui. sert à rien. Si on me dit que ça grossit 400 fois, je sais que je suis en train de me faire avoir.
Voilà, absolument, tout à fait, oui. Avec un diamètre de 60 mm, on peut aller jusqu'à 120, 150 fois.
Dans les meilleures conditions.
Oui. Voilà, pas au-delà. Et si le vendeur annonce des grossissements absolument faramineux de 350 à 400 fois, voilà. Ben, ça veut dire qu'il n'y connaît absolument rien en optique astronomique.
Alors là, on revient avec les formules de Frédéric et on lui apprend.
Voilà, on revient. On leur passe
on l'oblige, on le condamne à écouter Pulsan pendant des heures.
Ça va, c'est pas trop un calvaire.
Si, si, si.
Merci Frédéric. Tout de suite, nous allons parler de la conférence de Laurent Nautal. On a du retard, comme je disais. Donc, on va essayer de parler assez rapidement. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour cette conférence.
C'est toujours moi qui suis sacrifié.
Et c'est surtout Daniel sacrifié sur l'hôtel du temporel. L'hôtel
c'est
temporel.
Aïl El-Kébir, je ne sais pas comment on dit. Mais
ouais. Voilà. Donc, vous nous appelez au 02 40 93 26 62. Vous gagnez des places pour la conférence en nous donnant la réponse qui a fondé la théorie de la gravitation universelle. Donc, Daniel, tu vas nous parler de cette conférence qu'on peut gagner des places qui va être.
Mais voilà.
En fait, le vendredi 16 mars.
16 mars, au Bretagne, et qui s'appelle, on vous le rappellera à la fin, qui s'appelle Morphogénèse, au pluriel, gravitationnelle. Alors c'est un titre, j'en suis un peu désolé, là je me rends compte qu'il paraît un peu compliqué. Alors la morphogénèse, hein, on va dire tout bêtement ce que c'est la genèse, c'est-à-dire l'émergence des formes. Les formes, de quelle forme s'agit-il? Bien entendu, de celles qui nous intéressent, les formes dans l'univers, les galaxies, les étoiles, hein, de tout ce qui arrive à la matière, qui se structure et qui constitue tous ces corps célestes qui nous passionnent tant. Et morphogénèse, donc, dans l'univers, est gravitationnelle parce que c'est la principale force, la gravitation, dans la nature, enfin, du moins, à cette échelle-là. Alors, c'est très intéressant parce que Laurent Nautal en arrive maintenant à parler d'auto-structuration dans l'univers. Il va expliquer comment les choses se forment, et pas par des théories classiques qui tentent d'expliquer les choses, un petit peu plutôt dans le sens de la dégradation. Lui, Laurent Nautal, va montrer qu'au contraire, l'univers, plus il vieillit, plus il se structure, plus il se construit. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe partout. Hein, on observe que l'univers, si on croit à la théorie du Big Bang, en fait, il était d'abord homogène et puis il est devenu hétérogène. Hein, c'est un peu contraire au deuxième principe de la thermodynamique, on va tendre vers l'hétérogène. Finalement, quand on regarde la nature, tout est hétérogène. La vie apparaît après la matière homogène, etc. Alors, quelles sont ces forces qui structurent? Et dans l'univers, à grande échelle, c'est la gravitation. Alors, on va parler un petit peu de Laurent Nautal. Rappelez qui est Laurent Nautal? Alors, bien entendu, c'est un astrophysicien. Hein, à l'observatoire de Meudon, de Paris à Meudon. Il est, on peut dire que c'est un jeune pour un savant, puisqu'il n'a pas encore, hélas, mon âge canonique de 50 ans. Et il a il a fait des recherches donc sur les structures à grande échelle, la géométrique de l'espace-temps, on va s'expliquer là-dessus, les modèles d'univers, la détermination des paramètres cosmologiques, enfin j'énumère un petit peu parce que ça fait partie de ce que je vais dire, la formation des galaxies, les champs de vitesse cosmique, le rayonnement cosmologique, etc. Et il a travaillé longtemps sur les lentilles gravitationnelles, mais maintenant il se consacre essentiellement au développement de sa théorie de la relativité d'échelle. Alors, on va raconter ce que c'est. Et tout de suite, je dirais qu'il a publié des livres, dont un qui est extrêmement passionnant, qui s'appelle la relativité dans tous ses états, chez Hachette, vous pouvez encore le trouver. Et il a récemment commis un livre avec un économiste et un paléontologue, hein, pour démontrer la validité de ces théories dans d'autres domaines que l'astronomie, et c'est extraordinairement, c'est prodigieux, et ça s'appelle les arbres de l'évolution. Alors c'est quelqu'un qui a fait parler de lui puisqu'il avait la couverture de Science et Vie en 1995 où l'on titrait pompeusement 50 ans après Einstein, un savant décrypte l'univers ou quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait ça.
C'est impressionnant quand même.
Oui, c'est très impressionnant. Donc c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à la SAN parce que nous avions été passionnés par les recherches de Laurent Nottel. Nous l'avons invité à plusieurs reprises. Il ne nous a jamais déçus. Et on est en plein cœur du travail d'un théoricien. Alors je m'explique rapidement en quoi consiste la théorie. C'est tout simplement, les théories scientifiques, vous le savez, ce qu'elles font, elles tentent d'expliquer les lois qui sont établies à partir de l'observation et de l'expérience. Vous avez d'un côté des chercheurs qui font de l'expérimentation, qui mettent des lois, qui essayent de les mettre en forme
mathématiquement.
Voilà, puis après, il faut essayer de mettre tout ça ensemble pour essayer de comprendre le monde. Et ça, c'est un tout autre travail. Et il ne suffit pas pour cela d'être un excellent mathématicien. Il faut être un esprit visionnaire, car il faut anticiper sur la structure du réel que l'on va essayer de mettre en évidence. Alors, dans le domaine de l'astronomie qui nous intéresse, on peut rappeler qu'il y a deux grands domaines. C'est principalement la physique qui régit l'astronomie. C'est une science qu'on connaît bien. Et c'est la science donc d'un certain anglais qui a écrit les principes philosophiques de la, pardon, les principes mathématiques
de la philosophie naturelle.
Philosophie naturelle, c'est-à-dire la physique.
Donc on parle pas de l'anglais, parce que c'est là, si voilà. Vous nous appelez, vous donnez la réponse. Voilà.
Alors ces deux grands domaines sont d'une part le domaine, pour schématiser, de l'infiniment grand, où régnait jusqu'au 19e siècle la théorie de la gravitation universelle. Théorie dite de l'anglais.
Je suis désolé. Tu peux le dire de manière réelle.
Mais j'en fous, oui, de Newton. Et le domaine, d'autre part, de l'infiniment petit, où domine, la mécanique quantique, qui tente d'expliquer, alors très maladroitement, c'est essentiellement empirique, les phénomènes qui régissent les atomes et les particules élémentaires. Et c'est davantage une juxtaposition de lois expérimentales, et c'est principalement aussi une théorie de la mesure. Alors, en fait, ce qui manque cruellement à cette physique de l'infiniment petit, cette mécanique quantique, c'est en fait un principe unificateur fondamental qui existe dans l'infiniment grand, ça s'appelle la relativité d'Einstein et Poincaré ou Poincaré-Einstein, et ça manque dans l'infiniment petit. Alors,
c'est plus de l'expérimentation qu'ils ont. Ils n'ont pas une théorie unificatrice pour essayer d'expliquer exactement tous leurs phénomènes, la mécanique quantique.
Oui, alors c'est parce qu'on est dans un domaine extrêmement difficile, où il a fallu un appareillage très sophistiqué. Et c'est vrai que les chercheurs étaient confrontés à des phénomènes totalement étonnants. Alors, on va voir que la transposition directe de cette microphysique à l'univers cosmique et à la cosmologie est une erreur flagrante. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, en fait, pour finir sur ce domaine de micro-échelle, qu'est-ce que Nottel va tenter de faire? Alors, le gros de son entreprise, c'est d'essayer d'unifier la physique, mais pas d'une façon artificielle, en essayant par des bricolages mathématiques de les faire coexister.
C'est-à-dire qu'il prend pas une équation, on rajoute pas 3-4
voilà, en essayant de bricoler, de bidouiller, de faire de la cuisine. Non, il essaye de trouver un principe unificateur qui va tout unifier.
Et il généraliser en fait.
Voilà, et il prend comme exactement, c'est ça, il va prendre comme principe celui qui finalement règne en maître sur toute la physique cosmique, c'est le principe de relativité lui-même, qui est philosophique avant d'être physique. Il est très profond. Et il va dire simplement, il va le généraliser ce principe. Et au lieu de l'appliquer simplement au mouvement et aux trajectoires, il va l'appliquer au changement d'échelle. C'est-à-dire qu'il va prendre pour postulat que les phénomènes physiques répondent aux mêmes lois dans le domaine macroscopique, c'est-à-dire très grande échelle, et dans le domaine microscopique. Et c'est même, et pour faire, pour que ces lois soient valables dans les deux échelles, il va faire des transformations. Alors je ne rentre pas dans le détail, j'en serais bien incapable, mais en tout cas, il va appliquer le principe de relativité à ces transformations, c'est-à-dire qu'il va faire des changements d'échelle, et il va dire que le principe de relativité, il est valable également pour aller d'une échelle à l'autre. Et qu'est-ce qu'il va choisir comme formalisme mathématique? Il va prendre la grande théorie des fractales. Pourquoi les fractales? Les fractales, c'est pas seulement des mathématiques. Les fractales, ce sont des structures, vous savez, qui se répètent à l'infini.
Soit qui se répètent, ou soit quand plus on grossit, plus il y a des structures.
Voilà, plus vous allez dans le détail, plus ça devient compliqué. L'exemple qu'on peut citer, que tout le monde peut comprendre, c'est la côte. Par exemple, la côte bretonne, qui est très découpée. Donc, vous tracez une carte, vous êtes en satellite artificiel, vous tracez la Bretagne, vous la dessinez grossièrement. Bon, ça va être exact à cette échelle-là. Vous allez descendre d'un cran, vous allez être en hélicoptère, vous allez voir plus de détails. Et plus vous descendrez, à la limite, vous avez le nez dessus. vous allez faire un découpage de côte très très détaillé, puis si vous avez un microscope, vous allez découper encore plus.
Le chou-fleur aussi.
Ou le chou-fleur. Et ça, c'est très intéressant.
Les
parce
poumons.
Que si on vous demande, par exemple, quelle est la longueur de la côte du littoral breton, vous répondez, c'est une longueur infinie, parce que vous pouvez toujours rajouter. Alors, les structures fractales, je peux en citer d'autres. Il y a l'arborescence des poumons, il y a les surfaces montagneuses, les structures cristallines, etc.
La vache qui rit.
Et alors, Notal, il dit...
Non, c'est vrai, il faut pas rigoler. C'est fractal. Hein.
C'est fractal, oui.
Si vous regardez la vache qui rit...
Non, là, c'est l'idée de l'infini.
Là, c'est différent, mais c'est fractal aussi. C'est une forme de fractalisme répétitif. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez la vache qui rit, elle a une boucle d'oreille qui est elle-même la boîte de vache qui rit, qui est elle-même une boucle d'oreille, etc.
Donc, ouais, mais c'est une image de l'infini, c'est pas une.
Oui, c'est une image de l'infini, mais c'est aussi fractal.
Mais c'est tout à fait.
Mais fractal, c'est notamment répétitif. C'est
mais on va te croire.
Si, non, si, non, mais.
Je t'assure.
La différence, je dis, avec la vache qui rit, c'est que c'est la même image qui est répétée, alors que le fractal, c'est pas la même image quand tu prenais la côte bretonne, c'est-à-dire que c'est de la structure différente.
Ah, d'accord. Donc, nous quittons la vache qui rit. Ouais. Donc, le Notal dit que les fractales seraient, à un niveau fondamental, la manifestation structurelle de la non-différenciabilité de la nature. Enfin, je m'explique. C'est simplement que les fractales, c'est vraiment l'outil qui va permettre d'opérer cette opération. C'est ce changement d'échelle qui va permettre d'aller d'un domaine à l'autre de la physique. Et il va ainsi structurer l'espace-temps, il va lui donner une forme fractale, ce fameux espace-temps d'Einstein Poincaré.
Ce qui est très fort, pour résumer un peu, c'est que faut savoir que la personne, donc si vous nous appelez au 02 40 93 26 62, vous nous appelez, vous donnez le nom que je vais vous donner, c'est-à-dire Newton. Newton avait sa gravitation universelle, Einstein ne l'a pas cassée, il l'a généralisée. C'est-à-dire, en fait, tous les jours, si vous faites tomber justement une pomme, vous
faites la gravitation. Jamais en science, on ne détruit une théorie qui a été établie comme il
marche,
se doit.
Il
n'y a pas raison de la...
Donc, Einstein généralise la gravitation universelle, l'appelle la relativité générale, en apportant des choses en plus. Et en fait, ce que fait Notal, c'est qu'il généralise la mécanique quantique et la relativité générale pour faire ce qu'il appelle la relativité d'échelle.
Alors, en fait, la relativité, je dis rapidement que ça ne date pas d'Einstein Poincaré, ça date pour être précis de Galilée. Lorsque Galilée dira « le mouvement n'est rien », parce que le mouvement ou le repos n'ont pas d'existence absolue, ça n'existe plus, le repos. Quand Galilée s'est mis à décentrer la Terre et à dire finalement que c'est une planète comme les autres, ça voulait dire qu'elle bougeait, ça voulait dire qu'il n'y avait plus rien de fixe, en tout cas on ne pouvait pas le savoir, en tout cas le repos n'existait plus dans l'absolu. Donc aucun mouvement ne pouvait être analysé dans l'absolu, il pouvait être analysé que relativement à un autre. Et ça, Galilée l'avait vu.
C'est un peu le principe du train dans la gare. En fait, vous savez pas si c'est la gare qui part ou si c'est le train qui part.
Voilà.
La logique, c'est le...
Quand il y a deux trains, c'est encore plus...
Voilà, avec les deux trains, ça marche encore mieux.
Oui. En tout cas...
la gare, mais bon. La gare, ça pourrait marcher, mais vu que vous savez pas tellement que c'est pas la gare qui bouge...
Voilà, toujours est-il que Notal le souligne, ça, l'origine de cette relativité. Alors maintenant, il y a une autre... effectivement... lorsqu'on va appliquer l'inverse, alors ce que je n'ai pas dit qui est extrêmement fondamental, excusez-moi, c'est que il va faire l'inverse, l'opération inverse qui consiste à utiliser les principes de la microphysique, c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle les équations de Schrödinger pour les spécialistes, et on en déduit ce qu'on appelle aussi des fonctions d'onde, qui sont simplement ça permet de calculer des densités de probabilité, c'est-à-dire en fait ça permet de cerner des objets qui se manifestent par leurs propriétés, et on donne une probabilité de leur présence. Et c'est comme ça qu'on peut décrire les choses. Et si on abandonne, dans macrophysique, la notion de trajectoire précise et des choses que l'on a traditionnellement l'habitude de calculer, eh bien, on finit par pouvoir décrire des macrostructures permanentes, par exemple des orbites planétaires. Par exemple. Alors, en fait, c'est tout le travail qu'il va faire lorsqu'il va faire donc le travail inverse de passer de la microphysique à la macrophysique en utilisant les principes, eh bien, on va avoir, on va interpréter la nature finalement comme une tendance naturelle à former des structures. Et on garde ce qui est bien dans la théorie quantique. Alors là, maintenant, je vais finir par, effectivement, le travail de Notal. Donc, pour valider sa théorie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement regardé si ça marchait avec des systèmes planétaires comme le système solaire. Par exemple, donc la position du système solaire. Vous savez qu'il y avait la loi de Titus-Bode, qu'on appelle... Et je viens encore de relever sur Internet aujourd'hui une sottise phénoménale, parce que qu'est-ce qu'on en trouve entre nous. Alors, l'auteur de la page écrivait, la loi de Titus-Bode est due au hasard. Alors déjà, quand on est dû à quelque chose, c'est que c'est plus le hasard. Mais maintenant, quand on est dû au hasard, une chose dans la nature qui marche aussi bien n'est jamais due au hasard. Et en fait, la loi de Titus-Bode, c'est-à-dire qui donne la relation entre la vitesse d'une planète et puis sa position par rapport à l'étoile centrale, hein, donc la distance au Soleil ou à une autre étoile, eh bien ça, cette relation est constante, et on l'explique maintenant, Nottal l'explique tout simplement par un phénomène de structuration, d'autostructuration de la matière. Si on rentre des paramètres, comme pour décrire un atome, on a la constante de Planck, et bien pour décrire un système planétaire, on a une constante qui ne porte pas encore de nom, mais Nottal s'est mis en rapport avec d'autres scientifiques qui sont un peu dans le même, qu'on pourrait dire aujourd'hui, pour utiliser un mot un peu vulgaire, le même trip, en ce qui concerne les galaxies. Par exemple, il y a un type, j'ai oublié son nom, qui a vu qu'il y avait des galaxies. Les champs de vitesse de galaxies, c'est-à-dire la répartition des vitesses des galaxies dans le cosmos, n'étaient pas uniformes. Il y avait des concentrations et certaines vitesses qui étaient plus fréquentes que d'autres.
Alors quand c'est pas le hasard, justement.
Mais lui, voilà, quand Lascar va décrire le chaos dans le système solaire, il va décrire, voilà, voici des orbites possibles, voilà des orbites impossibles. Eh bien, Nottal, qu'est-ce qu'il a constaté? Qu'il y avait deux orbites dans le système solaire qui n'étaient pas occupées. Celle qui se trouve à 0,05 unités astronomiques, donc je n'ai plus fait le calcul, mais là il dit que c'est un peu trop près du Soleil, là carrément la chose serait, peut-être que la planète serait mangée là, hein, ou cuite. Mais il y en a une à 0,28 unités astronomiques, donc ça fait à peu près 27 millions de kilomètres, non 0,18 excusez-moi, donc ça fait à peu près 27 millions de kilomètres. Et là, il y a probablement une planète intra-mercuriale, donc entre le Soleil et Mercure. Alors il s'est mis, il est copain avec Schumacher,
le découvreur de comètes, hein.
Voilà, qui est découvreur de comètes, et il leur a demandé d'observer, notamment à l'observatoire de Nice, de rechercher cette planète. Alors je ne vous dis pas s'il découvre la 10e planète, système solaire, le carton que va faire notre ami Laurent Nottal. Et pour finir, il a parfaitement prévu les positions des planètes que l'on trouve actuellement autour d'autres étoiles.
Alors, il y a qu'en fait sa théorie, il retrouve la position des planètes qu'on retrouve dans les étoiles.
Sa théorie est validée, et je crois que c'est un des grands travaux théoriques du XXe siècle, parce qu'il ne faut pas oublier que la relativité, elle a 100 ans, elle a un siècle, c'est le siècle dernier, et actuellement encore, il n'y a pas une personne sur 100, et je dis un peu n'importe quoi, mais c'est sans doute une sur 1000 qui comprend la théorie de la relativité.
Tout à fait.
Parce que je ne parle pas des tas de gens qui savent appliquer les formules, qui peuvent manipuler les mathématiques, mais là n'est pas le problème. La relativité, c'est une question d'état d'esprit, et nous sommes encore dans l'état d'esprit du XVIIIe siècle en matière d'astronomie, et on a du mal à en sortir, et actuellement, il y a un grand théoricien, je le dis parce que je le pense, peut-être je me trompe, mais vous allez peut-être voir que d'ici quelques années, Laurent Nottal sera un Einstein et nous serons fiers de l'avoir connu et fiers d'avoir essayé de tenter de comprendre un quart du dixième de l'embryon du commencement de sa théorie.
Tout à fait.
Et d'avoir essayé de vous l'exposer.
Donc pour ça, en fait, il suffit de venir nous voir le 16 mars à la salle de Bretagne. Et puis
alors là, vous ne vous inquiétez pas, bon, ça paraît peut-être abscon ou difficile, ça n'est pas compliqué du tout. Laurent Nottal va essayer de vous montrer comment il a fait, qu'est-ce qu'il a... C'est pas difficile, mais il faut écouter.
Il faut écouter, il faut venir, et autrement, vous répondez à la question qui a fondé la théorie de la gravitation universelle. Vous nous répondez à la question, on a déjà dit la réponse plusieurs fois dans l'émission, et vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62, et l'avantage, c'est que vous viendrez sans payer votre place.
Donc, je rappelle la question, peut-être.
Voilà, la question, qui a fondé la théorie de la gravitation universelle? Pour ça, vous nous répondez, vous téléphonez au 02 40 93 26 62, et vous gagnez une place pour la conférence de Laurent Nottal, dont on a parlé tout à l'heure.
Et qui aura lieu le vendredi 16 mars, 21h, au Bretagne.
Pour ceux qui voient l'adresse du Bretagne, vous allez vous nous téléphonez, autrement vous allez sur internet, san-fr.com, vous allez dans la page agenda, vous avez un petit petite ligne sur le... et vous cliquez sur Bretagne, et vous avez le plan d'accès.
Avec le mulot.
Avec le mulot. Tout de suite, nous allons parler d'histoire. D'histoire encore un peu présente, nous allons parler de la station Mir. C'est Fabrice Dubreuil qui s'y colle. Alors, Fabrice Dubreuil, Mir, est-ce qu'il a fait le maximum?
Qu'est-ce qu'il fait mousser Mir?
Est-ce qu'il fait mousser Mir?
C'est une bonne question, hein, tout à fait. Si je vous dis Mir, vous pensez à quoi? Eh bien, apparemment, vous
non,
pensez
non,
à
non.
De produits ménagers. Eh bien, si. Non, non. Je suis sûr qu'il y en a un certain nombre qui pensent à Paco Rabanne, à Paris, et à la grande question 99, tombera ou tombera pas? Eh bien, moi, je vais vous le dire, en exclusivité mondiale, planétaire, radiophonique, elle va tomber. Mais pas sur nous.
Le stu cru.
C'est prévu, c'est pas sur nous.
Elle va tomber entre le 10 et le 15 de ce mois-ci, si, maintenant, c'est réglé.
C'est quasiment sûr. Hein.
Et c'est un peu pour ça qu'on a voulu parler de Mir ce soir, avant que la station spatiale se transforme en amas de métal en fusion et finisse dans le Pacifique. Donc, l'histoire de Mir commence en 86.
C'est il y a 15 ans de cela, le 19 février 86, pour célébrer les 25 ans du vol de Gagarine, au passage, que le module principal de la station est mis en orbite. Il est rejoint au fil des ans par 5 autres éléments, Vente 1 et 2, Cristal, Spectre et Priroda. Au total, c'est un ensemble de 140 tonnes, qui mesurait environ 30 mètres dans chacune de ses dimensions, qui a été assemblé en orbite. Ce principe d'assemblage est vraiment la grande avancée de Mir, puisque c'est la première station spatiale de type modulaire. Avant Mir, il y avait eu 14 autres stations de lancer, les Salyut 1 à 11, Cosmos 577 et le laboratoire spatial américain Skylab. Mais tous n'étaient constitués que d'un seul et unique module qui était lancé en orbite et après, un peu comme certains ordinateurs, ne pouvaient plus évoluer.
Au contraire, tu parles de système d'exploitation là ?
Non, d'ordinateur.
D'ordinateur.
Au contraire, avec Mir, on pouvait rajouter module sur module autant qu'on voulait et si on avait eu les sous, faire une orbite spatiale. Je m'arrête donc là quelques instants, juste pour rappeler que donc Mir est la 14e station spatiale lancée, mais il n'y en a que 8 qui ont été utilisées, les 6 autres, il leur est arrivé quelques accidents. Revenons au sujet. Mir, dont le nom, c'est un nom un peu prédestiné, puisqu'en russe, Mir, ça veut dire deux choses, ça veut dire paix et ça veut dire monde. Eh bien, Mir est la première station spatiale internationale réelle. En 15 ans, ce ne sont pas moins de 103 personnes de 13 pays différents, dont 5 Français qui ont séjourné à bord du Mir.
Et françaises.
Français et française. Pendant des périodes plus ou moins longues, le record étant tenu par un russe, Sergei Avdeyev, en faisant le texte, qui le 31 janvier dernier totalisait 748 jours de présence dans l'espace.
J'allais dire, pour petite parenthèse, le générique est masculin, il est inclus.
Non, mais on précisait simplement ce qui pouvait dire qu'il y avait des femmes qui partaient, notamment Claudie André Deheille, qui va partir vers la station spatiale internationale.
Mais cela dit, dans l'exemple, tu avais parfaitement raison, Thierry, c'est pour répondre un peu à ces hommes politiques qui peuvent plus s'empêcher de dire française, vache, je ne sais pas quoi. C'est, la girafe désigne aussi les girafes mâles.
Tout à fait. Hein,
c'est l'espèce qu'on désigne. Voilà.
Donc, bon, quand même, pour faire plaisir, dire, pendant 15 ans, hommes et femmes se sont succédés sur Mir, débarquant soit de vaisseaux Soyouz, soit de navettes spatiales américaines, puisque depuis 6 ans maintenant, les Américains abordaient assez régulièrement Mir pour tester, entre autres, les colis de fixation qui servent maintenant sur la Station Spatiale Internationale.
Qu'est-ce qu'ils testaient ?
Les colis de fixation,
les colis d'arrimage qui permettent à la navette d'aller s'arrimer sur la station. Finalement, Mir n'aura été inhabité que 13 mois en 15 ans et était occupé en permanence depuis septembre 89. Mais l'histoire de Mir est aussi et surtout à l'image de l'ancienne URSS dont l'effondrement a énormément joué sur le destin de la station. Ainsi, rappelez-vous peut-être de ce cosmonaute qui, en 91, a découvert l'URSS et après a dû attendre un certain temps pour que la Russie, nouvellement créée en 92, trouve les fonds pour le redescendre. Parce qu'il était parti et puis il n'y avait plus de sous pour le ramener.
Ce qui est excellent.
Il avait à manger.
Il avait à manger, mais bon, on ne savait pas trop comment envoyer le vaisseau ravitaillement avec quel sous. C'était un peu le début de nouvelle époque pour la station, puisque jusque-là, c'était l'appareil d'État soviétique qui assurait le financement du programme. Et à partir de 91, il y a un problème qui se pose, trouver les sous. C'est à partir de ce moment-là que va entre autres développer le rapprochement entre la Russie et l'Europe pour les missions de coopération entre l'ESA,
L'agence
spatiale européenne et donc la Russie, pour des missions où
Pierre Niret,
voilà, ont pu aller passer quelques temps sur la station. Cependant, la station est progressivement devenue hors de prix, et le 25 juin 1997, se passe un événement un peu qui aurait pu être dramatique, heureusement il y avait plus de peur que de mal. Un vaisseau Progress qui est venu ravitailler la station a raté son approche et a percuté la station. Ça a détruit quelques panneaux solaires et ça a rendu le module Spectre de la station complètement inhabitable. Des poussières usées, on ne pouvait plus aller dedans.
Un des modules de la station.
Et donc là, on commence réellement à se poser la question, est-ce que Mir est toujours très fiable ? De plus, pendant les 4 années qui vont suivre, à partir de 1997, la communauté scientifique va continuer à payer Mir, mais il y a un autre projet en jeu, c'est la station Alpha, qui est maintenant l'ISS, et la station Alpha qui se voulait la première station spatiale internationale. Si vous avez bien écouté, ce ne sera pas la première, ce sera au moins la deuxième.
Tout à fait.
Et comme la Russie est partie prenante dans le projet, il y a un choix à faire entre financer Mir et financer l'ISS. De plus, de leur côté, les Américains poussent un peu, parce que Mir, ils n'en veulent pas trop, justement parce que c'est un projet russe.
Tout à fait.
En décembre 2000, il va y avoir un incident qui va sceller le destin de la station, c'est-à-dire que pendant 3 jours, les Russes vont perdre complètement le contact avec la station, ils ne sauront plus comment la contrôler. Et là, la décision est prise, et malgré un relent d'orgueil et de fierté, des parlementaires russes qui ont voté la semaine dernière une loi comme quoi ils ne veulent pas qu'on détruise Mir. Il semblerait que malgré tout, la semaine prochaine, le vaisseau Progress qui a décollé vers Mir le 23 janvier et qui s'y est arrimé, va allumer son moteur et Mir va retomber sur Terre et va disparaître au-dessus du Pacifique dans un très joli flamboiement sur son moment, mais que personne ne verra parce qu'on a fait évacuer la zone de préférence longtemps avant.
On espère bien.
On devrait la faire tomber sur les moutons anglais.
Ça éviterait d'avoir des problèmes.
Comme ça, il n'y aurait pas besoin de l'incinérer, ce serait fait.
Mais voilà.
Merci Fabrice, on vous donnera d'autres nouvelles de Mir, je pense, dans les prochaines Actu Astro. On espère oui, elle sera tombée bien comme il faut et non pas disloquée ou tombée sur Paris au moment d'une éclipse totale, on ne sait jamais.
Mine de rien, les Australiens ont décrété l'alerte générale pour le jour de la chute.
Ben, ça ne m'étonne pas. Aussitôt pour en Australie, il y aura 3-4 kangourous, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, c'était Pulsan. Merci à tous les participants. Merci au loustic de la technique, comme on dit en langage technique, c'est-à-dire Raphaël et puis Frédéric. La prochaine émission Pulsan, c'est le 19 mars, le lundi à 21h10. Je vous donne rendez-vous la prochaine conférence, vendredi 16 mars, la conférence de Laurent Nautal. Et d'ici là, à la Saint-Olivia, l'astronomie, on ne fait que ça.